Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Depuis 3 jours, l'équipe de Par Jupiter est reprise en main par un nouveau réalisateur. Ce matin, 5h30, dans le couloir de la maison de la radio.
Fini de jouer les petits rigolos.
Fini de jouer les petits rigolos.
Je suis excellence de la radio.
Je suis excellence de la radio.
Chef, à quoi ça sert de courir pour une émission de radio?
Ça sert à arriver alors à l'antenne, ta punaise.
Mais on va courir encore longtemps là.
Jusqu'à ce que vous soyez arrivé au bout du couloir.
Mais chef, la maison elle est ronde et il arrive jamais au bout du couloir.
T'as tout figé, même cacœur. Allez, bande de moviettes, vous allez me faire rire à la France. Jamais les audiences là-haut sur la crête.
Jamais les audiences là-haut sur la crête.
Et on va rattraper les grosses têtes.
Et on va rattraper les grosses têtes.
Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça?
On n'avait qu'à pas demander à changer de réalisateur.
Comment?
Ils disent qu'on est très très content d'avoir un nouveau réalisateur.
Je déteste les lèche-bottes, Vanacker. Allez, encore 3 tours. Je vous les laisse faire seuls. Et en silence.
Chut. Les gars.
Ouais.
C'est bon, il est parti, on peut arrêter de courir.
Oh, ouais, dites le tortionnaire, là, vous croyez pas que c'est un coup de la direction, ouais, ça?
Ils veulent nous mettre à l'épreuve pour voir jusqu'où on résiste.
Oh, je suis sûre que c'est Laurence Bloch qui l'a payé pour nous épuiser.
Bah, arrête de regarder Dallas, Juliette.
Non, mais non.
Je vous vois, je vous rappelle que la radio est filmée. Alors vous me faites 3 tours de plus. Émaniez-vous, vous avez encore une mission à écrire.
Ouais, alors je propose un sujet, hein, la dictature en entreprise.
Ouais, bah cette fois, évite de mettre la réponse dans la question, s'il te plaît. Là.
Sinon, je donne pas cher de ta peau.
Je vais faire gaffe à toutes mes questions.
On va crever avant l'émission.
La France Inter et bienvenue dans la start-up radiophonique surentraînée, dont voici la devise du jour. Tant qu'il y a du Wi-Fi, il y a de l'espoir. Et voici les 3 sujets sur la homepage. Gare à vos miches, c'est l'ouverture de la chasse. Depuis que le prix du permis a été divisé par 2, les demandes ont été multipliées par 3, tandis que la nouvelle cible des fédérations de chasseurs, ce sont les jeunes.
Et que la chasse soit couronnée de succès, que personne ne meure, et que la viande coule à flot.
Le nouveau texte de loi bioéthique concernant l'élargissement de la PMA est présenté ce mercredi au Conseil des ministres. Mais ce qui agite la classe politique, c'est un glissement possible vers la GPA, d'accord? Mais des enfants issus de la GPA en France, il y en a. Sauf évidemment si on les a oubliés en faisant ses bagages.
Et j'ai la sensation que...
Quoi, qu'on a oublié quelque chose?
Louis de Funès a son musée. Il a ouvert cet été à Saint-Raphaël. On a mis Fufu sous verre et ses films dans des vitrines.
C'est fantastique, cher ami, vous ne trouvez pas?
C'est fou.
C'est fou.
C'est fou.
Et nous, on doit le casting de cette émission à Juliette Arnaud.
Oui, et j'ai réuni une équipe que j'ai appelée Nuance et Modération.
Ah oui, avec... on dirait un parfum, un regard.
Voilà. Alors tout d'abord, nous aurons Pablo Mira, celui qui est au sens de la nuance, que les gâteaux au yaourt et la est à la gastronomie.
C'est dur à dire. Salut les amis. Enfin les amis, les collègues sympathiques. Enfin sympathiques. Bref. Alors, fumer une clope, se faire tatouer, boire un verre de vin, chasser le sanglier ou frapper son enfant sur une départementale à 110 km/h, je vous expliquerai pourquoi cette société cherche à détruire tous nos petits plaisirs qui font le sel de la vie.
Voilà, le sens de la nuance. Ensuite, Guillaume Meurice, qui est à la modération, ce que la trottinette est au Sexapil, pas grand chose.
Oui, bonjour. Bonjour et merci pour ce beau lancement. Eh bien, figurez-vous qu'un festival de rap va avoir lieu en plein cœur du 16e arrondissement. Youpi, je suis allé voir les habitants.
La musique classique, elle a été faite par des auteurs, ils la déforment.
Fumier de rappeur.
Et enfin, celle qui est aussi peu à l'aise avec la tiédeur que l'ayatollah Khomeini l'était avec une boîte à striptease, Clara Dupont-Moretti.
Oh, méfiance, parce que... Alors aujourd'hui, pas de nuance, pas de modération, mais de la vaillance et de l'excès.
Et voici celle que nous sommes très heureux d'accueillir dans notre open space et qui va charmer certainement notre open space. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes...
Mylène de Monchot.
Oh, c'est Mylène de Monchot.
Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Mylène, on est ravis que vous soyez avec nous.
Merci beaucoup.
Alors, on vous connaît bien sûr actrice, soit Belle et tais-toi, Fantomas,
voilà,
pour ceux qui nous...
mal, celle-là. Je préférerais que vous commenciez par Les Sorcières de Salem, tant qu'à
on
faire.
On peut, très bien, évidemment.
Bon, c'était pas le meilleur, c'était pas dingue.
Non, c'est pas le meilleur, mais c'est le moins con, quand même.
Oh, Bonjour Tristesse, c'était vachement bien aussi.
Vachement bien. Oh, oui. Mais soit Belle et tais-toi, on peut faire l'impasse, quand même.
Si vous voulez.
Bon. En plus, pour une féministe, ça la fout mal.
On y reviendra tout à l'heure, alors. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, vous êtes la femme de Claude Brasseur dans Camping aussi, par exemple.
Ah, voilà. Voilà
Mylène de Mongeau.
Un film dont vous êtes fière.
Aujourd'hui, vous publiez un livre qui s'intitule...
En fait, vous ne vouliez pas être actrice, on peut le dire.
Elle assume un film dans les... toute la
film de vacances.
Je voulais jouer Lady Macbeth.
Ah, mais c'est pas trop tard.
Ou La Maison de Bernarda. Alors, je suis parfois un petit peu frustrée.
De toute façon, c'est frustrant. On n'a pas assez de toute l'heure pour donner toute votre filmographie. Et vous publiez Très chers escrocs aux éditions de l'Archipel. Mmh. Juliette Arnaud, je vous laisse avec Mylène de Mongeau.
Alors, donc, ce livre, il s'appelle Nos chers escrocs, et vous parlez de ce que vous connaissez très très bien. Vous vous êtes fait escroquer, et c'est ce que vous nous racontez. Alors, le point de départ, tout commence lorsque vous faites confiance à un banquier.
Ah bon, ce conseiller en patrimoine, un garçon que j'avais depuis 10 ans et que j'avais suivi de banque en banque. J'ai fait au moins 3 banques avec lui. Il était très gentil, il était beau, il était charmant, il était bien habillé. Il m'a jamais donné de mauvais conseils jusqu'au jour où il a fait des conneries et il s'est rabattu sur moi.
Oui, et puis alors, pas n'importe quelle connerie, puisque il faisait des magouilles façon Madoff, c'est-à-dire il pratiquait ce qu'on appelle l'escroquerie.
Ça s'appelle la chaîne de Ponzi.
Voilà, c'est
pas
ça.
Quoi.
Donc en gros, ça consiste à rémunérer les investissements des clients par des nouveaux clients. Donc c'est un système qui marche très très bien jusqu'à ce qu'évidemment il ne marche plus du tout.
Parce qu'un client très important n'arrive pas à rembourser ce qui lui a été prêté. Et donc ce malheureux cher escroc s'est retrouvé avec... Il avait plongé dans la caisse d'un Américain qui n'était jamais là et où il y avait des émoluments intéressants. Donc il pillait là-dedans et il s'est retrouvé dans la merde en disant « Ouh là là, le mec arrive, il faut absolument que je le rembourse ». Et donc il s'est retourné vers moi, bonne poire, en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais à avoir une assurance vie ? L'assurance vie, ça rapporte rien, c'est complètement démodé, c'est complètement con ». Et alors, sachant que je suis écolo, j'ai un placement pour toi qui est formidable, c'est au Brésil, pour de l'eau, pour aider les paysans, etc. J'ai foncé là-dedans, j'ai dit « Bon, ok, allez, on y va ». Et là, mon pognon, il est parti.
Voilà, et vous vous êtes beaucoup entendu dire autour de vous, par des amis, « Oui, mais c'est comme ça, Mylène, nul n'est censé ignorer la loi ».
Oh, ça, c'est insupportable. Alors ça, mais moi, j'ai encore déjeuné avec mon avocate hier, parce qu'on est en plein procès, hein, le procès du mec commence, et le 26, je vais savoir s'il est condamné ou pas condamné, parce que entre-temps, ça fait 7 ans de galère que je navigue là-dedans et que vraiment j'en vois de dur. Le mec, il est tranquille à la campagne, il vit avec son mec, il fait des affaires immobilières, il s'occupe des petits vieux, il fait des, je sais pas quoi, du viager,
on c'est va ça lui péter les jambes si vous voulez, hein.
J'ai dit ça à l'avocate, j'ai dit mais on peut pas aller lui casser la gueule.
Bah oui.
Et elle m'a dit mais non, alors tu sais, puis en plus si tu dis ça comme ça devant tout le monde, c'est sûr que tu vas avoir des gros ennuis. Bon.
Et donc en fait ce livre, c'est un peu un genre de justice pour les nuls.
Ce livre, il est fait pour, si j'avais, moi, parce que dans ce livre, je donne plein d'adresses, en disant aux gens, si ce qui m'est arrivé vous arrive, voilà. Il y a une rubrique où il y avait
des assos de kickboxing.
N'importe quoi, mais des trucs où vous pouvez aller, parce que si moi, j'avais eu vers quoi me tourner quand ça m'est arrivé, j'aurais pas perdu déjà 1 an. Parce que là, j'ai appelé un copain, qui a appelé un copain, qui a appelé un copain, qui avait un service à rendre à un copain, et ce qui fait, je me suis retrouvée avec un avocat qui n'était pas du tout ce qu'il me fallait.
Oui, vous avez quand même épuisé 5 ou 6 avocats dans cette affaire.
Oui.
Oui, ça fait beaucoup.
Ça fait 7 ans de galère. Bien sympa.
Mais ça fait un très beau livre. Et c'est ça, il faut positiver dans la vie, Mylène.
Je fais que ça.
Vous commencez le livre en parlant de votre rapport à l'argent et vous expliquez que votre papa, lui-même, a fait faillite. Et que vous avez senti, depuis que vous étiez petite, que l'argent était une source constante de conflits entre vos parents. Est-ce que vous estimez qu'une partie de vos déboires est le résultat de ce rapport quasiment héréditaire, éducationnel à l'argent.
Oui, mais pas forcément. Oui, je suis d'accord, mais pas forcément, parce que mon beau-fils, qui est tout aussi nullissime que moi au niveau pognon,
il m'a dit
un jour, mais pourquoi est-ce qu'à l'école, où on nous apprend rien, pourquoi on nous apprend pas à gérer un compte en banque, à ce que c'est qu'un compte en banque, à ce que c'est qu'un crédit, à savoir ce que c'est que l'argent, ça nous aiderait, parce qu'on arrive à 18 ans complètement con, quoi. Et c'est vrai que les banquiers, très intelligemment, nous gardent bien la marmite sur la tête, pour que surtout on ne sache rien. C'est le principe.
Il y a un petit côté lanceur d'alerte dans le livre, c'est-à-dire voilà, ça peut arriver, voilà comment ça peut arriver, c'est de l'abus de confiance.
Vous insistez sur le fait que les escrocs, évidemment, s'attaquent plus facilement aux personnes âgées, parce qu'elles sont plus isolées, parce qu'elles sont plus vulnérables.
Mais aussi qu'ils sont très séduisants, parce que ça, vous insistez sur ce côté-là.
Ah oui, il était super mignon. Oui. Et alors, j'ai un de mes avocats qui m'a raconté qu'un jour, il a piégé un escroc, il l'a envoyé en prison. Donc l'escroc, il a été en prison à Grasse. Et comme il le trouvait très sympathique et qu'il était dans la région, un jour, il est arrivé, il a dit, je vais aller lui dire bonjour à la prison. Il est arrivé à Grasse. Il m'a dit, mais c'était incroyable. Le mec était le roi de la prison. Tout le monde l'adorait. On lui a amené à manger, il y avait des gens, etc. Ce sont des charmeurs. C'est terrible.
Alors prenez un banquier moche.
Moche et revêche.
Guillaume Meurice, il serait bien un banquier. Mylène de Mongeau, vous expliquez donc cette mésaventure et vous donnez des clés aussi pour identifier et tenter de s'en sortir dans Très chers escrocs, publié aux éditions de l'Archipel. Vous êtes avec nous, Mylène de Mongeau, jusqu'à 18h. On en est ravis. On va parler plein de choses, de chasse, par exemple. De deux funesses avec qui vous avez tourné, de PMA, on va refaire le monde, et de GPA.
On se fait des
lines, Ford Mustang,
et
bang.
On embrasse les platanes,
Mas.
À gauche,
Kang.
À droite, et à gauche, à droite. Un essuie-glace.
Cool badge.
Avec un script dessus.
Keep cool.
Une barre de chocolat. Un
Coca-Cola.
On se fait des
lines
en
Ford Mustang.
Et
bang.
On embrasse les platanes.
Mus.
À gauche. Et à gauche, à droite, une bouteille de
fluid make-up,
un
flash,
un
browning,
et un
pick-up,
un recueil,
dead capo,
un briquet,
zippo.
On se fait des
lames.
Ford
Mustang.
Et
bang.
On embrasse les platanes.
Mus.
À gauche.
Chang.
À droite. Et à gauche, à droite. Un numéro de
Superman.
Un écrou de chez
Paco Rabanne.
Une photo.
La Ford Mustang de Serge Gainsbourg sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. C'est l'actrice Mylène de Mongeau qui est en notre compagnie. Les sorcières de Salem, donc avec Montand et Signoret. On va reparler des grands acteurs tout à l'heure avec
Sois
lesquels
belle,
vous avez tourné.
Sois belle et tais-toi aussi.
C'est
très
vrai.
Beau film.
Belmondo de Long.
Camping.
Eh oui.
Un homme et une femme.
Elle a tourné avec les plus grands, comme on dit. Mylène de Mongeau avec nous, qui publie un livre, Très chers escrocs, aux éditions de l'Archipel. Qui pour entourer Mylène,
Juliette? Des escrocs. Oui, ça, des fameux. Pablo Miracle, Clara Dupont-Mono et Guillaume Meurice.
Des gentils escrocs. Les mauvais sont dans le journal.
Moi, mesdames et messieurs, mes tripes, elles ont un goût d'eau salée.
Le journal de presque 17h17.
Ah oui, parfait avec le homard.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, nous évoquerons Patrick Balkany.
Oui, donc on parlera de fausses dents.
On abordera aussi le cas de Jordan Bardella.
Oui, on parlera donc aussi de faux culs.
Il sera aussi question de chasseurs, donc j'imagine que vous allez dire qu'on parlera de faucons.
Ah non, de vrais, cette fois-ci.
Ah, d'accord, très bien.
Vrai. Et on commence avec la politique française.
Oui, ce matin, le député européen Rassemblement National, Jordan Bardella, était l'invité de la matinale. Après avoir copieusement critiqué les affaires d'emploi fictif du Modem, Léa Salamé l'a interrogé sur les soupçons d'emploi fictif au RN.
Alors, donc, c'est un problème pour Sylvie Goulard et c'est pas un problème pour les assistants parlementaires du RN.
Ça n'a, en l'occurrence, strictement rien à voir.
Eh ben non, puisque c'est juste la même chose, en fait, exactement. Mais comme on dit dans le clan Le Pen, c'est un détail.
Politique toujours, plus que quelques jours avant le résultat du procès Balkany. Et hier, l'émission Quotidien l'a suivi pour savoir comment il se sentait.
Vous n'êtes pas trop stressé ?
Je ne suis pas d'un naturel stressé, moi. Je ne suis pas stressé.
Vous risquez la prison ?
Mon père était à Auschwitz.
Voilà, toujours un petit peu le sens de la mesure hein, qu'on retrouve chez tous les grands hommes.
Oui, c'est la marque hein, des grands hommes, c'est vrai. Alors la journaliste a continué en lui demandant ce qu'il ferait s'il était condamné.
Je fais appel.
Et si vous êtes condamné après l'appel ?
Après l'appel, il y a la cassation.
Et après la cassation ?
Il y a la Cour européenne.
Et après la Cour européenne ?
Je prendrai ma retraite.
On lui souhaite donc de prendre sa retraite le plus tôt possible pour passer quelques annuités en prison.
Politique encore. S'il est élu à Paris, Benjamin Griveaux promet de suspendre tous les travaux dans la capitale jusqu'à fin 2020.
Bien sûr, il imposera que tous les serveurs aient le sourire et organisera des balades à dos de licorne.
Technologie à présent, l'application Siri sur nos téléphones a été reprogrammée pour être davantage féministe et répondre aux questions polémiques sans prendre de risques.
Oui, alors à la question pourquoi le salaire des femmes est inférieur à celui des hommes, avant, Siri répondait ceci.
Parce que les femmes sont des connasses qui pensent rien qu'à faire du shopping.
C'était un petit peu violent quand même. Alors, testons à présent la version reprogrammée.
C'est un scandale qu'on va régler à grands coups de pied dans les couilles.
Ah oui, c'est beaucoup mieux.
Oui, c'est violent quand même. Ne faites pas ça chez vous.
Très bien. Féminisme encore, Tariq Ramadan a finalement obtenu de la justice la parution de son livre.
Ah bah d'ailleurs, qu'est-ce qu'en pense Siri, nouvelle version ?
Si je le chope, celui-là, je l'oblige à vivre un an avec Marlène Schiappa.
C'est hyper violent, violent.
Business, toujours Monopoly, lance une nouvelle édition dans laquelle les femmes gagnent plus que les hommes.
Alors Siri, t'es contente là ?
Oui, la semaine dernière, j'en avais rien à branler, mais là, dans ma tête, je suis Louise Michel.
C'est bien, c'est pas mal.
On enchaîne avec ce sujet de société. La chasse est ouverte depuis dimanche. L'occasion de procéder à quelques rappels à nos amis chasseurs.
Oui, alors soyez vigilants. Si le sanglier roule à 200 km/h, c'est un TGV.
En effet. Quant au faisan, s'il est rougeau qu'il titube, c'est sans doute Robert, votre copain de Beuvrier.
Alors attention, parce que ça pourrait être aussi Boris Johnson.
Alors, restons hors de l'Europe.
Alors au Japon, l'eau radioactive de Fukushima va être évacuée d'ailleurs dans l'océan.
Oui, les Japonais, ils s'en foutent la radioactivité, ça leur fait une belle jambe.
Précisément, ça leur en fait trois, dont une qui leur pousse dans le dos.
Effectivement, sport à présent. Michael Schumacher a donc été hospitalisé à Paris récemment, là, 6 ans après son grave accident de ski. Mais il reste couché.
Oui, et toujours cette question, est-ce que quelqu'un a pensé à donner une danette à Michael Schumacher ?
Non, c'est vrai que ça, on n'a pas essayé. À Tarbes, je vous lis ce titre. Interpellé, il vole une voiture de police et s'enfuit, gyrophare allumé et sirène hurlante.
Ah bah il a l'air d'aller mieux, Alexandre Benalla.
Oui, c'est vrai. Science, enfin, pour terminer. Selon une étude récente, la masturbation permettrait d'avoir un plus haut poste et un meilleur salaire.
Ah, Siri, qu'est-ce que t'en penses ?
Ça ne m'étonne pas, on est gouverné par des branleurs.
Okay. 17h26 à Nice, où vous êtes née, et à Montpellier, où vous avez grandi, n'est-ce pas, Mylène de Mongeau ?
J'ai passé une partie de ma vie, oui.
Ah, voilà. Alors, on va aborder ce premier sujet avec vous. Cette semaine, donc, c'est l'ouverture de la chasse. Et la rentrée des chasseurs est marquée par un permis à prix tout doux. Le prix du permis a été divisé par 2, donc les demandes ont été multipliées par 3. Et pour repeupler les colonies de chasseurs, la fédération tente de séduire les jeunes. Quand ils prennent le fusil de chasse à 16 ou 17 ans, c'est par tradition familiale le plus souvent. Si parmi nos auditeurs il y a des chasseurs, voici un geste de sympathie de notre part pour vous prouver quand même notre bonne foi sur ce sujet.
Les chasseurs sont nos amis, il faut les aimer aussi. Comme nous, ils ont une âme et surtout, ils ont une
arme, il faut pas en dire du mal, il vous ferait un deuxième trou de balle. Et toi, quel est ton nom? Moi, je m'appelle le bourrin. L'autre jour, j'ai tué mon gamin. Ça m'a fait moins de chagrin que lorsque j'ai buté mon chien. Un truc à quatre pattes et bam, je pensais tirer sur ma femme.
Frédéric promet, bien sûr, qu'on retrouvera vendredi. Alors, je me disais, Mylène de Mongeau, on vous connaît grande dans la défense des animaux, dans l'amour de la campagne, où vous avez vécu d'ailleurs, je pense, dans la...
Je vis toujours, de plus en plus.
Dans la Mayenne, c'est
dans
ça
la Mayenne.
Dans la Mayenne.
Avec des biches et des chevreuils qui viennent manger mes prunes. Et ma grande angoisse de voir les chasseurs et la chasse. Mais vous savez, je suis, franchement, simplement, je suis consternée. Parce qu'on sait parfaitement que les chasseurs, c'est un lobby. Et que ce lobby, on le caresse dans le sens du poil, parce que ce sont des votants. Alors moi, je milite énormément pour notre parti, qui est le parti animaliste. Mmh. Parce que je pense que si on arrive à aller plus haut que les chasseurs, qui sont à peu près 1,2 million, ils étaient 1,2 million, ouais. Si on arrive, nous, parti animaliste, à faire 2 ou 3 millions de votants, on arrivera peut-être à quelque chose, parce qu'on sera plus intéressant que les chasseurs. Les chasseurs, c'est dramatique. Et moi, j'ai un charmant médecin qui me fait des infiltrations dans le genou parce que j'ai mal au genou. Et c'est un grand chasseur. Donc, chaque fois que je vais faire mon infiltration, tous les 6 mois à peu près, on s'engueule comme du poisson pourri. Non, moi, j'ai dit,
et le genou va
dit,
pas mieux, du coup.
6 000 euros l'infiltration.
Ça marcherait. Il me dit, mais moi, je vais en Afrique et je passe un moment merveilleux. J'ai dit, bon, d'accord, je comprends tout ça, l'Afrique, le moment de merveilleux. Mais pourquoi tu es? Et là, il n'a pas de réponse. Il ne sait pas me dire pourquoi tu es. Il dit, mais on est dans une société gavée. Je comprends très bien qu'on tue quand on crève de faim. Mmh. Et ben, je pense que si on était dans un accident d'avion et qu'on était dans la neige et qu'il fallait bouffer, je boufferais de l'humain. Mmh. En simplement en me déconnectant la tête. Ben oui, c'est déjà arrivé. On se déconnecte, on se dit pas je mange de l'humain, on se dit je mange une côte de bœuf.
Mais quand c'est pas nécessaire.
Mais quand c'est pas nécessaire, pourquoi? Pourquoi j'arrive pas à comprendre
peut-être
cette
que
joie?
C'est nécessaire de tuer. Excusez-moi, je propose des lignes de lecture de l'actualité.
Mylène de Mongeau. Sur ce sujet, on voulait aussi vous poser une question parce que au début de votre carrière, pendant pas mal de temps, les journalistes vous ont souvent opposé à Brigitte Bardot. Vous étiez les deux sex-symboles blondes du cinéma, etc. Bon, tout le monde connaît l'histoire. Aujourd'hui, elle défend aussi beaucoup les animaux. Vous êtes resté en contact avec elle? C'est un combat
complètement, commun. Complètement, mais oui, on se bat ensemble. J'adore cette femme. Je n'aime pas les positions extrêmes qu'elle prend parfois, mais qui sont des positions naïves.
Elle, c'est les chasseurs et les arabes.
Elle aime tellement.
Non.
Laissez parler Mylène de Mongeau.
Mais non, c'est même pas ça. C'est qu'elle adore les moutons et qu'elle supporte pas ces gens qui tranchent la gorge des moutons. C'est aussi bête que ça. Et après, c'est devenu les arabes, machin, tout ça. C'est complètement idiot.
Vous avez dit hors position de toute façon que vous épousiez ces combats pour les animaux, donc on a bien compris. Mylène de Mongeau avec nous. Tiens, il est 17h30. Mylène de Mongeau, vous êtes une femme de conviction. Et lui aussi, c'est Pablo Mira.
C'est vrai, je suis une femme de conviction, Charlie.
Oui. Et donc mon petit ange trapu, mon Apollon de la Costa Brava.
Ouais.
Aujourd'hui, je crois que vous vous insurgez contre la disparition de tous les petits plaisirs du quotidien.
Les exploits d'un éditorialiste solitaire dans un monde de gauchistes. Le chevalier et sa droiture. Un réac des temps modernes, dernier recours des innocents et des lecteurs de mariage, victime d'un monde féministe et progressiste.
Ouais, ma louloute, c'est bien moi, et aujourd'hui, je suis colère. Colère et ballonnement. Mais ça, c'est parce que j'ai pris de la macédoine à la cantoche ce midi. C'est une autre histoire. Je suis colère parce que Michel Sardou a raison. Il y en a marre de cette société où on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien dire. Si j'ai le malheur de critiquer un homo, on dira que je suis homophobe. Un gros, on dira que je suis grossophobe. Un moche, on dira que je suis masochiste. Donc ça suffit. Ça suffit. On vit sous le regard du Big Brother, de la bien-pensance, dans le stress permanent du faux pas. Maintenant, de peur de la blesser, il faut même plus accoster une femme dans la rue. D'ailleurs, faut plus dire que c'est une femme. Peut-être se sent-elle homme en ce moment, ou furet, ou tricycle. Qui peut le savoir? Moi, par exemple, je me sors Gorgonzola cette semaine. Non, c'est ridicule.
C'est ça l'odeur. Ouais.
Ça sent mauvais, dit Mylène.
Ça commence à tailler sur l'odeur déjà.
Ouais, c'est Mylène.
Je
prends. Qui clash.
Allez, c'est ridicule. Presque autant que cette chasse permanente aux petits plaisirs de la vie qu'on a initié avec les fumeurs et qu'on est en train d'étendre aux vapoteurs. Écoutez bien.
Oui,
tenez,
j'ai entendu
écoutez
ça.
Bien.
Oui.
Bref, vigilance. Hier, gare Saint-Lazare, homme à Paris, un homme a pris 35 euros d'amende pour avoir 35 euros d'amende pour avoir vapoté sur le quai. Charline, c'est une honte. À ce rythme, les Français n'auront même plus les moyens de se payer un cancer, ni même une cirrhose. Suffit de voir la campagne de dénigrement contre l'alcool, et à tort, hein, parce que je suis désolé, mais boire de l'alcool, ça nuit pas forcément à la santé, ou ça dégénère pas forcément en émission de foot avec Daniel Riolo sur RMC. Tiens, puisqu'on parle de foot, là aussi, grosse poilade. Maintenant, à la grande mode, écoutez, c'est de suspendre les matchs quand on entend des chants homophobe. Écoutez, à l'heure où l'on parle, le pauvre Dimitri Payet, il attend toujours de tirer son corner face à Reims. Un mois qu'il est là-bas, le gamin. Un mois. Et puis en plus, c'est pas toujours de l'homophobie. Non, non, taisez-vous, Charline.
J'ai rien dit, là.
Bah si, vous avez dit j'ai rien dit, là, à l'instant. Je disais, c'est pas toujours homophobe, ces chants dans les stades. Chanter les Marseillais, c'est des PD. Là, oui, là, c'est homophobe. Mais chanter les Bastiais, c'est des PD. Là, c'est juste suicidaire. Nuance. Non, franchement, cette époque est devenue invivable, je vous le dis. Rien que le fait de conduire, hein, on trouve le moyen de nous enquiquiner là-dessus. Hein, alors qu'avant, la voiture, c'était quoi? C'était synonyme de liberté. On pouvait conduire vite, hein, faire du 120, 150, même du 200 victimes à l'heure sur l'autoroute. Non, c'est incroyable, je vous dis, cette cabale contre tout ce qui est agréable. Les seuls un peu épargnés, on en a parlé là, qui arrivent à résister, ce sont les chasseurs. Bon, ils résistent pas à leur cubile rouge de 8h du matin, mais pour le reste, ils résistent. Mais franchement, je vous pose la question. Tiens, à vous, Mylène, écoutez bien, je sais que vous défendez les animaux. Il est où le mal dans la chasse, hein? Vous voyez, vous n'avez pas de réponse. C'est toujours ça avec les écolos quand on leur laisse pas le temps de répondre.
Pour conclure, je cherchais le mal.
Coupez le micro de la dame, s'il vous plaît. Allez, pour conclure, il est évident que si on obéissait aux ayatollahs du vivre ensemble, on prendrait aussi peu de plaisir que Pierre Ménès devant un discours de Malcolm X. Car c'est bien ça qu'on a perdu au fil des années, le plaisir de vivre. Et moi, je vous le dis parfois, je m'imagine un peu à retourner à l'époque où on faisait ce qu'on voulait sans se soucier des autres, où l'on pouvait se moquer des étrangers sans être taxé de raciste, où les féminazis et leurs aisselles touffues n'osaient pas la ramener. Mais bon, tout ça, c'est de l'ordre du rêve, car j'aime trop la France pour aller vivre en Italie. Allez, salut.
Pablo Mira, merci Pablo. Et en parlant de petits plaisirs du quotidien, Mylène de Montjean en a profité pour vapoter pendant votre chronique. Au moment où vous disiez...
Alors, j'ai appris un truc intéressant aujourd'hui, c'est qu'en Amérique, il y a une énorme polémique parce que le vapoteur serait extrêmement dangereux.
Mais oui,
alors ils ont poussé un petit peu l'information, je crois que c'était sur une chaîne concurrente tout à l'heure. Simplement, les gens qui vapotent, ils vapotent de l'huile de hache.
Eh ben bravo les gens.
Alors évidemment, ils sont totalement défoncés, et ces cons-là, ils avalent la fumée. Alors elle descend dans les poumons, moi j'avale pas moi,
bah,
je
voilà.
N'avale pas. Voilà.
Et vous préparez un film avec Michel Simès. Voilà. Hein.
C'est ça. Le petit conseil de Mylène de Montjean, et elle vous en donne d'autres dans son livre. Très chers escrocs, pour éviter de vous faire escroquer à votre tour aux éditions de l'Archipel. When you told me the other day that you wanted to come back to stay and soothe me, your words they soothed me, baby. Then I heard from one of your guys. Me. Mélanie qui n'avait pas d'idée de titre. C'est un chalala. Vous écoutez France Inter par Jupiter. L'actrice Mylène de Mongeau est en notre compagnie. Elle aime dénoncer les escrocs dans son dernier livre. Et en est-il un? Guillaume Meurice.
Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Se demandait le philosophe des Lumières, Joe Starr, philosophe du briquet plus précisément. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, Joe Starr, c'est le rappeur subversif qui fait de la pub pour Chevignon et qui participe au jury de la Nouvelle Star. Bam! Prends bien ça dans la gueule, le système, il est en PLS, il est comme s'il couchait par terre, le système. D'ailleurs, le rap continue de faire peur et dans le 16e arrondissement de Paris, il y a un festival qui est menacé d'annulation car il fait peur, notamment aux riverains, on en a parlé hier dans l'émission. Alors, c'est vrai que le nom des groupes au programme sont notamment Assassin, Kalash Criminel. Bon, quand t'es habitué à Jean Dutour et Michel Sardou, ça peut un peu décoller les racines. Alors, je suis allé sur place pour me rendre compte du traumatisme, hein, c'est vrai. Déjà, est-ce que les habitants du 16e connaissent le rap?
Oui, les NTM et autres, oui, c'est ça.
Exactement.
Hein. Oui, on connaît. C'est une vulgarité, c'est vulgaire. C'est pas très gentil, c'est pas très convivial. Hein.
Ouais. Alors, est-ce que niquer sa mère, c'est convivial? Ça, je dirais, ça dépend des régions de France. Hein. On n'est pas là pour rentrer dans un débat culturel. Je laisse chacun juger. Pour ce monsieur, il faut bien faire la part des choses dans le domaine de l'art.
D'un côté, la poésie, de l'autre côté, la musique, la chanson. Et le rap, c'est entre les deux, et moi, j'arrive pas à accrocher du tout. Voilà.
Ouais.
Je préférais que les paroles, on les mette comme une poésie ou comme une chanson, mais là, on mélange les deux avec un rythme qui est toujours le même et qui est épuisant.
Vous êtes épuisé par le rap?
Ah ben, si je l'écoutais, oui, ça m'épuise.
Et ça, on n'en parle pas assez, des gens épuisés complètement par le rap. Vous imaginez si le festival a lieu, hein, un quartier épuisé, pas à cause du bruit, à cause de la musique en elle-même. Alors, est-ce qu'il vaut mieux mourir d'épuisement en écoutant du rap ou de dépression dans la playlist de France Inter? Une fois de plus, ça c'est vraiment perso, je vous laisse juger. Alors, continuons à parler rap dans le 16e.
Mais le rap n'a pas d'harmonie. Et puis, de toute façon, le rap, c'est toujours le même rythme peu chez chacun.
Mais est-ce que pour vous le rap c'est de la musique quand même?
Non, c'est pas de la musique. Pour moi c'est de la récitation.
Qu'est-ce que vous avez écouté comme rap?
Ouais, je suis trop vieille pour ça.
Oui, non, mais ça on s'en fout. Allez, on n'a pas besoin de connaître un sujet pour avoir un avis ferme et définitif. Sinon, j'aurais pas de chronique sur France Inter, je vous le rappelle. Et puis sur BFM, il n'y aurait plus d'émission avec des experts, soyons honnêtes. Alors, c'est vrai qu'il y a une question d'âge aussi, hein, mais cette dame, elle a des enfants qui n'aiment pas le rap et ils sont bien éduqués, ces petits.
Des garçons qui sont autour de 40 ans.
Vos enfants n'aiment pas le rap?
Il y en a un même qui a été vulgaire. Qui a dit c'est con, mais qu'est-ce que ça peut être con? Alors j'ai dit écris-le avec un K, ça a beaucoup plus de force.
Oula, attention, parce que si on commence à être vulgaire et jouer avec la langue française, on n'est pas loin d'un album dans les bacs. Hein, tête de con avec un K, du groupe Tête de cul avec un cul. Attention, attention, parce qu'il y a un côté provoque aussi dans un nom de groupe. Assassin, voilà, c'est provoque volontairement. Alors j'en ai parlé à une femme qui aime bien Brassens, ça tombe bien, moi aussi. Est-ce que Brassens n'aurait pas aussi, lui, écrit des chansons provoques?
Pas si provocante que de parler d'assassin.
Comme Brassens s'est dit, les gendarmes, je les préfère sous la forme de Maccabée, c'est...
De qualité.
Oui, c'est de qualité. Voilà, alors, voilà, j'insiste là-dessus. Si vous avez du vocabulaire, une moustache et une pipe, ça va. C'est une question de style, en fait. C'est ça qu'ils n'ont pas pigé, les rappeurs. Regardez Yann Moix, il a le droit d'avoir été antisémite parce qu'il ne fait pas de faute de grammaire. Voilà, c'est comme ça, c'est la France. Polanski, il a le droit d'avoir été violeur parce qu'il fait bien des contre-plongées.
Voilà. Il avait une moustache à l'époque.
Et il avait une moustache, en plus. Double avantage. Voilà. C'est technique, c'est technique. Soyez sur le coup. Et il faut aussi que ce soit quoi, la musique?
Pour que la musique, ce soit un plaisir. Faut pas que ce soit des textes revendicatifs et tout ça. Alors ça, non. Il faut rester dans le loisir, dans le plaisir de la musique.
Vous pensez qu'on peut pas cumuler les deux, avoir du plaisir et à la fois un texte revendicatif?
Non.
Non, c'est non, a priori, parce que moi j'avais des doutes là-dessus, mais c'est non. Pour ceux qui aimaient Renaud, les Berruriers Noirs, Bob Dylan, tout ça, c'est non. Alors, non. N'insistez pas, Juliette, ça va partir, hein, attention. Non, allez, il est temps de conclure avec ce monsieur sur l'art.
J'aime le bon et le beau, je suis pas compliqué.
Qu'est-ce que le bon et le beau?
Ben, disons que je pense que à partir du moment où quelque chose est beau, il y a quand même des choses qui vont séduire une majorité de personnes, alors que certaines...
Ce qui est beau, c'est ce qui séduit une majorité de personnes?
C'est assez compliqué à expliquer, mais quand même, c'est compliqué. Oui, enfin, vous comprenez, je pense, à travers mes quelques mots.
Oui, je crois qu'on a pigé le truc. Alors, on a compris que chaque génération a parfois tendance à détester la musique de la nouvelle génération, hein, que tout ça, ça passera. Même si le problème est que la justice se prononcera sur le festival seulement deux jours avant la date prévue, que la pression des gens de la rue existe et que, comme vous le savez, désormais...
Dorénavant, la rue ne pardonne plus.
Merci Guillaume Meurice qui arpente les rues souvent de Paris avec son micro pour nous ramener tout ça tous les jours. Merci Guillaume. Mylène de Mongeau est en notre compagnie. Abordons cet autre sujet avec
Mylène.
Vous.
Non,
mais j'écoutais ce qu'il disait parce que je disais que le rap, ce sont des gens qui sont en colère. Mm-hmm. Donc effectivement, ils expriment leur colère. C'est pas forcément totalement séduisant. Moi, ce qui m'a choqué dans le, parce que je crois que c'est du rap, c'est les andouilles qui sont allées sur le perron de l'Élysée pour pérorer une musique imbécile à l'Élysée. Ça m'a choqué.
Ah, ça vous a énervé,
ben voilà.
Ça
m'a énervé. Vous aviez un côté réac, mais on l'avait pas bien vu encore depuis le début de l'émission.
Ça m'a énervé. J'ai trouvé ça nul, mais nul.
Alors, on va voir si vous vous énervez aussi sur l'autre sujet choisi par Juliette.
Alors, le projet de loi bioéthique du gouvernement va proposer que la PMA soit ouverte non plus seulement à tout couple formé d'un homme et d'une femme, mais aussi au couple formé de deux femmes et à toute femme non mariée. Alors, toute la droite du parti LR jusqu'aux évêques, en passant par Marion Maréchal Le Pen, est vent debout, arguant que la GPA n'est pas loin. C'est comme si rien n'avait changé, qu'il n'y avait toujours qu'une seule façon de faire des bébés. Et puis, la Sainte Vierge. Et puis, Marie-Thérèse.
Madame, je vous jure que les hommes y couchent avec un garçon. Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie. Marie-Thérèse, rappelez-vous, vous êtes bien sortie une fois avec un garçon. Mais non, madame, je vous jure que j'ai jamais sorti avec un garçon. Je ne sors jamais avec les garçons. Marie-Thérèse, ne jurez pas. Marie-Thérèse, vous êtes bien allée au bal un soir. Mais non, madame, je vous jure, je n'ai jamais au bal. Arrêtez de jurer, Marie-Thérèse. Ils vous ont peut-être fait boire. Je vous ramène. Mais enfin, Marie-Thérèse, c'est impossible.
Alors, toute la droite,
c'est Catherine Jacob.
C'était Catherine Jacob dans La vie est un fleuve tranquille.
Et Hélène Vincent, voilà.
Dans La vie est un fleuve tranquille.
Étienne Châtillaise.
Alors, je disais toute la droite, je suis pas tout à fait juste, c'est pas vrai. Il y a une députée LR, Nadia Ramassamy, députée de La Réunion, qui estime que le refus de retranscrire les actes de naissance porte atteinte à l'identité et aux droits fondamentaux de ses enfants. Hein, parce que même si on pense que la GPA, c'est mal, c'est l'œuvre de Satan, super, mais les enfants français issus de la GPA, qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'ils sont là, eux, ils sont là pour de vrai. Alors on a choisi ce sujet en pensant à vous, Mylène, parce que dans différentes interviews, vous dites que vous êtes sensible au fait qu'il y ait des Français qui partent, par exemple, en Suisse pour pouvoir bénéficier de l'euthanasie, du suicide assisté.
C'est la VMD, oui.
Voilà.
De mourir dans la dignité, du moins.
Oui. Hein, de la même manière.
Je veux avoir le droit de m'en aller parce que on ne m'a pas demandé mon avis quand je suis venue. Donc là, maintenant, j'existe et je veux avoir le droit de m'en aller si j'en ai envie.
Restez encore un peu, peut-être, Mylène.
Ouais, l'émission, c'est jusqu'à 18h.
C'est ce que je veux.
Et alors, justement, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces enfants?
Eh bien, je suis très, très, très perplexe parce que d'une part, je comprends très bien que des gens aient envie d'enfants, mais d'autre part, quand on regarde un petit peu le monde où il va, quand on regarde la sixième extinction, quand on regarde que la démographie sur Terre est un fléau absolument terrifiant, on s'est dit, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête, tous, d'avoir encore envie d'en rajouter un et d'en rajouter un et d'en rajouter un, de... Et puis, je sais pas, le monde s'en va, on ne sait pas ce qui va se passer dans les 20, 30 ans qui viennent. Les mômes, qu'est-ce qu'on en fait des chômeurs? Qu'est-ce qu'on en fait?
Vous êtes plus contre le fait de faire des enfants tout court, peu importe le moyen.
Je pense qu'il faudrait faire un passeport qui permettrait aux
un
gens...
Un permis
à faire des enfants en toute connaissance de cause.
Quels seraient les
avec
critères,
une bonne réflexion. De réfléchir à ce que... Regardez, sans arrêt, on voit des gens qui mettent des enfants sur Terre et qui s'en occupent pas. Cette nuit, je regardais une émission sur Michel Houellebecq, que j'adore.
Ah, oui,
et donc, je
ne
connais rien
de
son enfance. Et j'ai appris tout d'un coup qu'il était né d'une femme qui n'avait pas du tout envie d'avoir un enfant, qu'il a foutu à la grand-mère. Et comme elle était communiste, elle a dit « je ne veux pas qu'il ait de nounou, parce que nounou, ça va lui donner des goûts de luxe, et ça va lui donner le plaisir d'avoir des domestiques. » Et ce môme, il a grandi tout seul, toute sa vie.
Alors ça a donné un écrivain.
Oui, mais quand on lit Cyrulnik, qui dit que ce qui est important pour un tout petit, c'est l'affectivité dès le départ, c'est le porter contre son ventre. Les Africains sont beaucoup plus intelligents que nous. L'enfant, on le voit bien, alors il est ou devant ou derrière, mais il est tout le temps là. Les gens, ils le prennent et puis le foutent de côté. Et je suis terrifiée par ces gens qui mettent les mômes à 3 ans dans les maternelles, à 3 ans.
Ah, oui.
Ça me fait peur.
Okay. Ça va bien se passer, Mylène. De toute façon, on va tous crever,
Mylène. Tout ça, c'est européen, c'est en général. Donc,
en tout cas, vous dégagez des bonnes ondes. Ça, c'est toujours un plaisir de...
Non, mais c'est intéressant parce que vous avez choisi... vous avez très clairement choisi de ne pas avoir d'enfant.
Oui, oui.
Et ça, ces questions sur la PMA, sur la GPA, c'est quelque chose qui vous agite, c'est-à-dire l'envie
moi,
que les autres...
Non, mais moi, je sais que, par exemple, j'ai eu un père, j'ai eu une mère, j'ai eu une grand-mère que j'ai connue. Et très, très souvent, je me suis dit, tiens, ça vient de maman. Tiens, ça vient de papa. Ça vient de ma grand-mère. À ce défaut-là, tiens, maman est exactement comme moi. Et ces enfants qui, tout d'un coup, risquent de ne pas avoir d'identité, ça me fait peur.
Ah, mais pourquoi ils n'auraient pas d'identité
ils en auront une, forcément.
J'espère, oui.
Ouais. Pourquoi vous craignez qu'ils n'en aient pas?
Parce vont quand que même je être confonds élevés, avec votre truc où c'est le grossesse dans le ventre. Là,
ah
où...
oui,
c'est
ça, la GPA.
C'est la GPA,
oui, c'est là où vous mettez la limite. Ouais. Ouais, vous. Ouais. Très bien, on a bien compris. Mylène de Mongeau, avec nous. Vous aimez la littérature, Mylène de Mongeau. Oui. Vous citiez Michel Houellebecq, que vous aimez beaucoup aussi. Et Clara Dupont-Monod veut nous faire découvrir un auteur qu'elle adore, elle trépignait.
Oui, parce que l'actualité, Mylène, c'est aussi, alors que j'en ai pas trouvé, pour vous parler donc d'un livre exceptionnel. Non mais j'ai cherché.
Ah oui,
plus.
D'accord.
Donc j'ai passé 24 heures à chercher une actu. Et parfois la littérature est l'actualité, il faut quand même l'admettre. Alors ce livre s'appelle Muren et il est signé de Valentine Gobi. Alors si Sophie Cluzel, que par ailleurs personne ne connaît et qui pourtant est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, écoute cette chronique, et ça doit certainement lui arriver, eh bien elle doit absolument rabattre sa couette, aller acheter ce livre et le faire savoir. Dans la foulée, en plus, comme ça, tout le monde saura que Sophie Cluzel existe vraiment. Alors, vous l'aurez compris, Muren parle d'un handicapé, raconte un handicapé. Mais un handicapé de ceux dont on se détourne, dans le bus, dans la rue, et en plus à une époque où le regard est peut-être moins entraîné qu'aujourd'hui. Nous sommes en hiver 1956, et un prénommé François Sandre, qui a 22 ans, marche dans la neige, sa voiture est tombée en panne dans ce coin perdu des Ardennes. Puis il voit un wagon de chemin de fer, et il ne voit pas les rails, et il voit surtout pas le panneau danger qui est recouvert par la neige. Il monte sur le toit du wagon pour repérer un village au loin et aller demander de l'aide pour sa voiture. Je cite « Une déflagration fracture le ciel, le corps de François s'arc en fausse burie au-dessus du wagon. » La ligne de chemin de fer étant électrifiée, François Sandre vient de se prendre les 25 000 volts de la caténaire et son corps mouillé de neige a servi de conducteur. Résultat, on le retrouve en étoile dans la poudreuse, carbonisé et quasi mort. Or, un chirurgien intervient et parvient à le rattacher à la vie, mais en le détachant de ses membres supérieurs. C'est-à-dire que François vivra, mais amputé de ses deux bras. Alors commence le chemin de croix. 1956, donc peu d'appareillage, peu de prothèses, balbutiement de la kinésithérapie, pas du tout de structure adaptée. La personne handicapée est mise au banc. Et d'ailleurs, quand Victor Hugo doit trouver un prénom pour baptiser sa créature difforme, qu'est-ce qu'il choisit ? Quasimodo, ce qui signifie étymologiquement quasiment sur le même mode, quasiment comme un humain, mais pas tout à fait. Et ben François Sandre, lui, est devenu un quasi et il perd la main sur sa vie. Les expressions ne sont jamais là par hasard. Il a un buste orphelin et qui devient en fait un fardeau. Parce que marcher sans qu'il équilibre des bras, se lever sans appui, manger, s'habiller, caresser une joue, et bien maintenant il ne peut plus. Et comme elle écrit ça, Valentine Gobi, en fait, elle écrit comme on se met en colère. Vous n'aurez pas de larmes, vous n'aurez pas de compassion, vous n'aurez pas de cœur serré, vous aurez une lutte. C'est-à-dire que c'est une écriture parcourue d'un frisson de rage. C'est sec et c'est tendu. En fait, c'est un bras d'honneur qu'elle offre à celui qui n'en a plus. Ainsi donc, François vivra, et mieux, il va nager. Alors là, vous vous dites tous, non mais ça c'est pas possible.
Si,
mais
si, c'est possible.
Et voilà, ben, si c'est possible, à condition de nager en fait comme une murène. C'est-à-dire qu'allongée sur le dos, au prix d'un énorme effort musculaire, comme une onde, François peut avancer dans l'eau. Et la natation va devenir sa bouée, au sens littéral, qui va l'empêcher de sombrer. Valentine Gobi a eu l'idée de ce roman en regardant à la télé les Jeux Paralympiques de Rio en 2016, épreuve de natation, médaille d'or pour Zheng Tao, pas de bras, mais 1 minute et 10 secondes pour faire le 100 mètres d'eau, mini hors-bord soulevant un pli d'eau contre sa nuque, splendide murène sous les néons, une ondulation pure, ininterrompue, écrit Valentine Gobi. Et ben avant Zheng Tao, il y a eu tous ces François Sandre, tous ces héros finalement, qui étaient un moment dans une piscine, à l'abri des regards, au moment de la fermeture, épaulés alors qu'ils ne n'ont plus d'épaule, par d'autres mutilés qui créeront à ce moment-là ce qu'on n'appelle pas encore le handisport. Je vous redonne les références pour Sophie Cluzel et nos auditeurs. Mmh. Murène de Valentine Gobi est paru chez Actes Sud.
Merci Clara Dupont-Moneau.
Intéressant.
Mmh. Oui, vous nous le recommandez.
Ah, c'est formidable.
Très, très fort.
Tiens la tension jusqu'au bout, c'est formidable. J'en parle dans cette l'émission depuis 3 jours.
C'est vrai.
Oui.
Vous vous souvenez de ce film de Dalton Trumbo qui s'appelait Johnny Got His Gun, mmh. où le jeune soldat était dans une chambre sans bras et sans jambes. Et quand à un moment donné, il n'en pouvait plus, on l'avait foutu dans un placard, il sentait quelque chose de chaud comme ça. Il disait, c'est quoi ce truc chaud sur ma... Ah, c'est le soleil. Et parce qu'une infirmière était gentille, elle avait senti un film bouleversant.
Ben voilà.
C'est bouleversant.
Que vous recommandez aussi Mylène de Mongeau,
oh oui.
qui est avec nous. Tiens, touchons un peu de cinéma et d'un monument du cinéma populaire, parce qu'il y a un musée entièrement consacré à Louis de Funès qui a ouvert ses portes cet été à Saint-Raphaël. Prochainement, il va faire son entrée aussi à la Cinémathèque. Alors, mmh. voulez-vous demander, tout un musée autour d'un acteur, est-ce que vous trouvez ça trop ou c'est vraiment Fufu, c'est un monument. Vous avez tourné avec lui dans Fantomas, par exemple. Vous étiez
oui,
Hélène.
Trois. On a fait 3 Fantomas ouais. ensemble. On était très amis. Mais cette histoire de musée et de reconnaissance crée une grande polémique parce que mes amis purs et durs, intelligents et très branchés de la Cinémathèque trouvent scandaleux qu'on fasse rentrer un comique qui n'a fait que des films. Pas vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Qui n'ont pas eu les palmes à Venise, à Cannes, ouais. etc. Ils sont choqués. Je veux dire,
mais
on s'engueule tout le temps.
Non, à travers les générations.
Mais cet homme, écoutez, aujourd'hui, on a tourné Fantomas il y a 50 ans. Ça passe encore chaque année. Et les gens se régalent. C'est devenu un film culte comme Blanche-Neige. Si moi j'existe encore aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que personne ne nous oublie à cause de Fantomas et de Hélène, de Fandor, de machin, tout ça. Donc ce type est extraordinaire. Et si vous regardez bien la télévision, n'est-ce pas, et ce qu'on nous en balance dans les gencives, Charlie Chaplin, on ne le voit presque plus. Ouais. Jerry Lewis, on ne le voit plus. Danny Kaye, on ne le voit plus. Et de Funès, il est toujours là. Et Rabbi Jacob, c'est un petit chef-d'œuvre. Le Corneau, c'est formidable. Non, c'est un homme. Mais si seulement je pouvais vous donner une page d'un scénario, du scénario de Fantomas, vous voyez, il y a une page avec 25 lignes de dialogue assez plat, si on veut, qui sont des dialogues de comédie ouais. courants, comme on en fait tout le temps. Et ce que cet homme-là en fait, ce qu'il en fait, lui...
Il transforme le plomb en or.
C'est merveilleux.
Mylène de Mongeau, on s'est permis d'écrire un petit sketch. Je sais pas si vous... Est-ce que vous êtes d'accord de jouer avec nous? Je sais pas s'il faut chausser vos lunettes, vos demi-lunes,
oui.
comme dirait Guillaume Meurice.
Alors l'histoire est la suivante. Figurez-vous que l'Arabie Saoudite paye des influenceurs sur les réseaux sociaux pour pimper son image. Alors on s'est imaginé comment se passait l'accueil d'une de ces influenceuses. Et c'est vous, Mylène, qui allez l'interpréter. Guillaume est le prince Mohamed Ben Salman.
Okay. Tout à fait.
Oui, et Charline, son accompagnatrice.
Mon prince, je vous présente Mylène, elle est chargée de donner au monde une belle image de notre beau pays.
Bonjour Mylène, vous n'êtes pas journaliste, j'espère.
Bah non, pourquoi?
Pour savoir si vous allez rester entière ou finir en rondelle.
Mais j'ai pas compris la blague.
Oui, alors laissez tomber. Alors Mylène est influenceuse.
Ouais, je suis instagrammeuse. Je partage mes insta-moments avec mes insta-fans.
Ah, j'ai pas compris la blague.
Non, elle dit qu'elle va partager les photos qu'on lui demandera de partager.
Ah d'accord, bienvenue Mylène, voici vos appartements.
Oh, mais la 500 suite est chante-mère, c'est immense, mais pourquoi il y a 12 lits?
Je suis très soucieux de votre confort, je veille à ce qu'il y ait un lit par femme.
Ah bon? J'ai des collègues? On forme une vraie rédaction en fait? Oh ben c'est trop bien, je vais l'insta-tweet direct.
Non.
Oh, en tout cas, j'adore les deux beaux rideaux à côté des fenêtres.
Ah oui, alors non, ça c'est Leïla et Rachida, c'est vos deux servantes pendant votre séjour.
Trop bien, j'ai lancé le hashtag femme rideau.
Non. Alors pour les premières photos, on va poster des paysages hein, d'abord.
Ok, bon, d'accord. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a comme activité ici?
Oh ben vous pourrez faire des photos au zoo.
Ah, génial! Mes Instafans adorent les animaux. Vous savez quoi? Des singes? Des dromadaires?
Non, des opposants politiques.
Oui, plaisante, hein. On va envisager une autre activité.
Et pourquoi pas une Instabalade en chameau dans le désert?
Ah, ben les femmes n'ont pas le droit de monter sur les chameaux, hein.
Elles ont le droit de conduire des voitures? Et elles n'ont pas le droit de monter des chameaux ?
Oui, parce que les chameaux n'ont de contrat d'assurance pour les accidents.
Ah, oh là là. Attendez, qu'est-ce que vous faites là ?
Ben, je me mets un maillot de bain. Hmm ? Pour ma première Insta Story, je voulais poster une photo à la piscine.
Ah, mais non, il est 16h. Et à 16h, la piscine est fermée pour les femmes.
Ah bon, pourquoi ?
Parce qu'il fait trop chaud pour porter un burkini.
En revanche, on peut vous prendre en photo devant le portrait du prince, si vous voulez.
Oh ben non, on fait un selfie.
Bon, donnez, je vais la faire, j'ai le bras long.
Allez, souriez. 1, 2, 3...
Mais vous n'avez pris que la moitié de mon visage.
Ah pardon, une vieille habitude de couper les têtes.
Merci beaucoup Mylène de Mongeau. C'était marrant de jouer avec vous ce rôle. Mylène de Mongeau, je rappelle la sortie de votre livre qui s'intitule « Très chers escrocs » paru aux éditions de l'Archipel. Merci infiniment, on vous embrasse.